franceinter.fr.
On va parler indépendance de la magistrature.
On a des valeurs qui sont héritées de l'histoire, qui nous font différents de toutes les nations du monde.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
L'indépendance des magistrats.
Les magistrats sont beaucoup plus indépendants, on le dit. Les magistrats sont indépendants, ils se veulent indépendants et ils le sont. Ce qui est vrai, c'est que leur statut est tel qu'ils peuvent être soupçonnés de ne pas être indépendants. Voilà ce qui est grave.
Un esprit de combat, on le sait, habite depuis une cinquantaine d'années le corps de la magistrature française, gagnant peu à peu jusqu'à son cœur. Au début de cette période, en 1977, le président Braunschweig, qu'on vient d'entendre, qui avait l'expérience des plus hautes juridictions, disait « En réalité, l'indépendance de la justice gagne du terrain, mais, dans l'opinion, le soupçon à son égard en gagne aussi. » L'opinion. Il est vrai que nous n'avons qu'une assez vague idée de la justice. Spontanément, nous partagerions volontiers l'avis d'un ancien garde des Sceaux, Olivier Guichard, qui, sortant de charge, avait eu ce seul commentaire « Mieux vaut ne pas avoir affaire à elle. » Et si, en revanche, nous nous essayions aujourd'hui à un bref exercice de longue durée? Eh bien déjà, à la fin de l'Ancien Régime, les Français n'aimaient plus leur justice, et déjà, des membres éminents des parlements qui la rendaient se plaçaient eux-mêmes au centre de la contestation, et déjà, en 1789, les cahiers de doléances se demandaient comment faire autrement, longue durée. Quand on fait l'histoire de la justice dans la longue durée, on pense Jacques Trinan. Bonjour.
Bonjour.
Qui est professeur d'histoire du droit à l'université de Toulouse 1. Ça fait un peu vieux jeu, Toulouse 1.
Il faut rajouter Capitole.
Ça fait un peu ancien régime. Alors vous publiez une vaste fresque en deux volumes chez Gallimard qui commence bien avant même ce qu'on appelle l'Ancien Régime et qui va jusqu'au XXe siècle, l'emprise contemporaine des juges. C'est le deuxième volume. Commençons justement avec l'Ancien Régime, si vous voulez bien. Les droits étaient très divers et la justice était encadrée par des parlements. Une oligarchie ?
Oui, une oligarchie, 13 parlements, 13 grandes cours royales, l'équivalent des cours d'appel aujourd'hui, qui jugent en toute indépendance parce que les parlementaires, ces hauts magistrats, appelés les conseillers au Parlement, bénéficient depuis Louis XI, depuis le XVe siècle, d'un statut d'indépendance. Ils sont le roi les nomme mais ne les choisit pas et leurs fonctions sont héréditaires.
Indépendance, ça leur permet de faire des remontrances. Un peu non. Comme aujourd'hui, le droit de remontrance est exercé par certains magistrats. La Révolution va nettoyer tout cela pendant un moment. On imagine, Jacques Trinan, qu'il y a trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif. En fait, pendant la Révolution, le seul pouvoir qui compte, c'est le pouvoir législatif et il n'y a pas de pouvoir judiciaire.
Absolument, absolument. La grande préoccupation des constituants, dès les années 89-90, c'est de séparer les pouvoirs, mais séparer les pouvoirs pour assurer le règne de la loi. C'est la loi qui est souveraine désormais, en lieu et place du roi. Et les autres pouvoirs sont des pouvoirs seconds, un pouvoir exécutif, c'est très péjoratif, un pouvoir d'exécution, et un pouvoir de pure application de la loi dans les procès, le pouvoir dit judiciaire, qui est un pouvoir en creux.
Ce pouvoir en creux peut être exercé dans l'esprit des constituants par des magistrats qui seraient élus.
Absolument, absolument. C'est le grand témoignage de la révolution de la justice, c'est l'élection des magistrats. Plus de magistrature professionnelle. Il faut briser l'ancienne magistrature, empêcher qu'elle se reconstitue. Désormais, tous les juges, c'est-à-dire des milliers de juges, petits, moyens et grands, sont élus par des assemblées électorales. Donc, juger n'est plus un métier, ce n'est plus une profession, c'est un service qui est permis à tous les bons citoyens, pourvu qu'ils certifient, enfin qu'ils démontrent qu'ils ont du civisme.
Et une bonne moralité. Alors gardons cette idée en tête, puisqu'on va parler longue durée. La question de l'élection, c'est une question qui se pose assez régulièrement quand on parle de l'indépendance de la magistrature. Enfin, Napoléon vient, qui installe son ordre, le prodigieux, le fameux code civil, et puis le code pénal, et la magistrature redevient professionnelle, elle est même fonctionnarisée, vous diriez presque militarisée.
Oui, toutes les expériences d'instauration d'une nouvelle justice, d'une justice citoyenne de la Révolution ont échoué. Tout est à reconstruire. Il faut reconstruire une magistrature que, bien entendu, le premier consul puis l'empereur veut professionnelle, une des magistrats dévoués au régime. Et cette magistrature est à nouveau professionnalisée, mais extrêmement disciplinée, extrêmement surveillée par le pouvoir, au service des valeurs, au service des codes, le code pénal, le code de commerce, le code civil,
magistrature
au
qui
service
prête,
de la législation napoléonienne.
Magistrature qui prête serment, les magistrats en principe ne peuvent être révoqués, mais enfin vous racontez dans l'emprise contemporaine des juges que tout au long du 19e siècle, à chaque changement de régime, il y a des vagues d'épuration. Alors ça s'organise géographiquement avec des tribunaux de première instance, coiffés par des cours d'appel, et ce système qui est appelé à s'inscrire dans la longue durée et rythmée par la cérémonie annuelle des rentrées solennelles. C'était du côté de la Saint-Martin, c'est ça, non ?
C'est ça, la veille du 11 novembre.
Oui, parce qu'il y avait les messes au début. Et même quand il n'y a plus une messe, le caractère de sacralité a été conservé. Et à côté des magistrats, on voyait, dans ces séances solennelles, en présence des hautes autorités civiles et militaires, les avocats que Napoléon avait organisés dès 1810 en ordre. Nous sommes à Rennes.
Messieurs de la Cour, j'ai l'honneur de requérir qu'il vous plaise. Déclarer close l'année judiciaire 1912. Admettre, monsieur le bâtonnier, messieurs les anciens bâtonniers et avocats présents à la barre à renouveler leur serment.
Messieurs de la Cour, vous venez de m'introduire au sein de votre compagnie, suivant un rite qui, loin d'être un cérémonial dépassé, conserve au contraire tout son sens. Il rappelle en effet à celui qui est reçu, quel que soit son rang, qu'il appartient à une assemblée dont il est certes le chef et le guide, mais dont l'aide et le concours lui sont essentiels pour remplir sa mission à la tête du ressort de la Cour.
Vous êtes extraordinaire, vous, les professeurs d'histoire du droit, parce que, bon, nous, on supporte ça pendant 30 secondes, mais vous êtes capable de lire des séries entières de discours de rentrée solennelle, à l'issue de quoi vous tirez la conclusion que c'est solennel, que ça rappelle le passé, ça rappelle les parlements, d'ailleurs.
Ah, tout à fait. Le discours de rentrée des cours et des tribunaux est un vieux rite d'Ancien Régime, supprimé bien sûr à la Révolution, que restaure Napoléon en même temps que les autres marques de dignité de la magistrature. Il faut attirer des candidats, donc rétablissement du costume, rétablissement des appellations d'Ancien Régime, procureur, président, chambre plutôt que section, palais de justice plutôt que maison de justice, etc. Les hauts magistrats sont promus comte ou baron d'Empire. Bref, il faut choyer la justice, donc on lui rend cette possibilité de célébrer le logos de la justice à chaque rentrée annuelle, ce que font les procureurs ou bien les premiers présidents.
Ça, c'est le côté éclatant, mais enfin, il y a le revers de la médaille. Vous décrivez une justice ou des magistrats au XIXe siècle qui sont en apparence sans éclat, dont le traitement n'est pas extraordinaire, dont la nomination est aléatoire, dont le maintien est incertain.
Oui. La magistrature est très maltraitée durant tout le XIXe siècle. On lui rend sa dignité, son décor, mais on la rémunère très mal. C'est intentionnel. Thiers disait qu'il fallait que la magistrature soit composée de propriétaires et donc il fallait recruter parmi les propriétaires la bourgeoisie ou la noblesse et par conséquent, inutile de bien la rémunérer. Elle doit prêter serment au régime. Elle est nommée et surveillée par le pouvoir. L'avancement est extrêmement difficile. Et donc une magistrature sans éclat, de qualité médiocre, mais tout de même avec de très grandes figures de magistrats, il ne faut pas exagérer.
Alors un lieu sans éclat, Privas, petite cour dans l'Ardèche, dans les années 1890, c'est le cadre du film. Bah vous l'avez vu exprès pour préparer l'émission de Tavernier,
le juge et l'assassin.
Et l'assassin, je ne vous laisse pas montrer le dispositif. Le juge d'instruction, c'est
c'est Philippe Noiret.
Convaincre le producteur, c'est Jean-Claude, le procureur, c'est Jean-Claude Brialy, de faire un sort à un vagabond, on dirait aujourd'hui un vagabond tueur en série.
J'ai fait son portrait, vous savez, à la mine de plomb. Pas une esquisse, un vrai portrait. J'ai examiné attentivement tous les crimes de ces dernières années qui avaient entre eux un air de famille. Et j'ai constaté que tous ces témoins qui vivaient à des centaines de kilomètres les uns des autres avaient tous, sans le savoir, décrit le même homme. Et cet homme, tenez, le voilà.
Tiens, on dirait un vagabond dessiné par Stylen.
Je suis sûr qu'il est ressemblant.
Et vous pensez que c'est ce même homme qui a commis tous ces crimes?
Mais j'en suis sûr, je le sens, là.
Peu importe, même s'il n'existe pas, il est là. Vous lui avez donné la vie. Vous êtes un magistrat d'avenir. Vous avez levé un lièvre superbe qui vous mènera jusqu'à Paris, où l'on vous décorera de la Légion d'honneur.
Ah oui, le traitement est faible, mais il y a la promesse de la Légion d'honneur.
Oui, oui, oui.
C'est tout un débat aujourd'hui. Est-ce que les magistrats doivent porter la Légion d'honneur et le rang dans la Légion d'honneur sur leur robe? Et la Légion d'honneur, c'est le marchepied?
Au XIXe siècle, on peut considérer, comme dans le film, que la Légion d'honneur, c'est le marchepied pour une carrière politique, car jusqu'en 1903, il n'y a pas d'incompatibilité entre une fonction judiciaire et un mandat politique. On peut être magistrat, on peut être juge de paix, on peut être président de cour d'appel, conseiller de cour d'appel, membre de la cour de cassation, tout en étant député, sénateur, voire ministre.
C'est seulement au début du XXe siècle que les choses changent et que l'incompatibilité va être décrétée en même temps qu'est institué le concours.
Voilà.
Un concours pas facile à nommer comme tel, mais c'est un concours de fait.
En 1908 est institué, plutôt que la nomination directe par le pouvoir, qui jusqu'à présent contrôlait des juges, recrutait des juges soumis au régime à qui il faisait prêter serment, en 1908 est institué un examen professionnel qui va se transformer jusqu'en 1924 en véritable concours. Et désormais, à partir de là seulement, on peut considérer que la magistrature ne s'identifie plus à une catégorie sociale déterminée, à des notables, à des adeptes inconditionnels de l'ordre et du régime en place.
Mais tout à l'heure, je vous ai interrompu quand vous vouliez parler des professeurs créatifs, des magistrats qui inventent de la jurisprudence, des magistrats auteurs. Il y en a eu tout au long du XIXe siècle.
Il y a eu de très grands magistrats tout au long du XIXe siècle, qui étaient fort proches du pouvoir, mais qui ont conservé leur liberté de parole. Donc cette magistrature sans éclat que les historiens ont souvent critiquée, il y a eu de très grandes exceptions, avec un très grand souci chez ces magistrats de se rattacher à l'indépendance de la justice, qui était une tradition historique sous l'Ancien Régime, et qu'ils veulent retrouver au XIXe siècle.
Mais alors, ils profitent des interstices du Code civil, parce que ça a beau être prodigieux et extraordinaire, le Code civil, ça laisse beaucoup de choses à la discussion des juges, et ils inventent une jurisprudence. Le mot jurisprudence, c'est très important, ça rime avec indépendance.
Voilà, alors il y a ces grandes figures de magistrats, comme le procureur général Dupin, par exemple. Et puis, il y a aussi les petits, les magistrats ordinaires, qui travaillent au quotidien à la fabrication du droit. Car tout ne peut pas être dans la loi. La loi ne résout pas les cas particuliers. Et donc, c'est au juge, décision après décision, d'adapter le droit aux situations particulières, à l'évolution des mœurs, à l'évolution économique, aux changements sociaux, etc., etc. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est-à-dire le droit qui est créé par les jugements, par les arrêts des cours et des tribunaux.
Alors Dupin, que vous avez cité, il est 30 ans à la Cour de cassation. C'est le lieu suprême où la jurisprudence se consacre. Et puis il y a les modestes juges dont vous parlez. Il y en a un qui va d'ailleurs à un moment tenter une carrière politique et qui est symbolique. C'est le bon, à moins que ce ne soit l'habile, juge Magnot de Château-Thierry. Alors c'est un juge qui pense que la bonté, voire l'équité, ça doit faire partie de la création du juge, de l'application jurisprudentielle.
Oui, le juge Magnot que Clémenceau appelait le bon juge Magnot, qui a défrayé la chronique par des jugements en équité, c'est-à-dire à l'écart de la loi, prenant en compte la personnalité du délinquant. Le juge Magnot est capable d'acquitter une femme qui vole du pain, un mendiant récidiviste avec 40 inscriptions au casier judiciaire. Il est capable de prononcer un jugement de divorce mutuel alors que le divorce mutuel n'existe pas. Ce juge-là montre que la magistrature française, même à l'époque de sa soumission, est capable de se mettre à l'écart de la règle législative et d'humaniser le droit.
On en arrive insensiblement avec vous, Jacques Crinen, au XXe siècle, où le souvenir du bon et de l'habile juge de Château-Thierry est encore très fort, comme le prouve ce reportage en Picardie.
En invoquant l'état de nécessité pour relaxer une mère de famille qui avait volé de la viande pour ses enfants, le tribunal de Poitiers s'est inspiré d'une jurisprudence célèbre, celle du bon juge de Château-Thierry. Le président Magnot, connu pour son anticléricanisme à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, le souvenir du bon juge est toujours présent chez les magistrats de Château-Thierry.
C'est en 1898 que le petit juge de Château-Thierry commence à faire parler de lui. Cette année-là, une jeune fille mère comparaît pour avoir volé un pain dans une boulangerie, pour nourrir son enfant, dit-elle, qui n'a pas mangé depuis 36 heures. Le tribunal, présidé par Magnot, la relaxe. Il vient d'inventer l'état de nécessité. L'affaire, un retentissement insoupçonnable. Clémenceau, dans l'aurore, va même jusqu'à baptiser Magnot le bon juge. Le président Magnot s'illustre de nouveau par des jugements favorables au sans grade. Il devient célèbre, veut faire de la politique. Cela provoque sa chute. Mais un siècle après, ce n'est pas son passage sur les bancs de l'Assemblée qui reste dans les mémoires, mais une certaine vision de la justice.
On va rester dans la même vision, dans la même eau, avec cette chanson « On ». Je dis chanson « On » parce que Philippe Meyer désigne souvent comme ça un certain nombre de petits bijoux un peu oubliés. Ringo, Willy Cat ici.
Et juge, en rentrant chez vous le soir, est-ce que vos âmes sont tranquilles? En embrassant vos enfants, vous sentez-vous l'esprit libre? Juge, parmi les hommes, sans pouvoir s'accorder de faiblesse. Juge, comment juger sans savoir où est la vérité?
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
L'indépendance des magistrats. Aujourd'hui, on entendait l'ancien compagnon de Sheila. On va passer à un auteur des éditions Gallimard, Jacques Crinen. L'emprise contemporaine des juges. Deuxième volume d'une grande fresque sur l'état de justice en France. Je trouve que vous ne faites pas beaucoup de place à un moment qui a quand même son importance. Vous allez me dire que c'est une période d'exception, mais peut-être est-elle révélatrice d'un état ordinaire. Le régime de Vichy.
Oui, je fais l'impasse. Je fais l'impasse, je reconnais. C'est une critique importante. Parce que ces justices d'exception, alors il y en a sous Vichy, il y a les cours martiales de la milice, il y a les sections spéciales, mais il y en a eu dans toute l'histoire de France. Et quand le pouvoir n'est pas capable de maîtriser ses juges, en période de crise, de guerre civile, ou bien de guerre étrangère, ou d'occupation étrangère, il crée une justice politique. C'est-à-dire qu'il instrumentalise la justice, il donne des apparences de justice à la répression.
Une justice
et donc c'est
militante.
Une justice à part, on sort de l'histoire de la magistrature.
Oui, mais ce qui est quand même intéressant pour nous, c'est d'étudier les comportements et les réactions des magistrats quand, par exemple, pendant le régime de Vichy, ils sont bousculés, épurés de leurs éléments juifs et sans arrêt sollicités. Vous parliez des sections spéciales l'été 41 pour réagir aux premiers attentats contre les Allemands et faire plaisir à l'occupant. Le garde des Sceaux, M. Barthélémy, faisait le tour de la fine fleur des magistrats. Ici, on est dans le film de Costa Gavras. De Costa Gavras, c'est aussi la filmeur des comédiens pour chercher un candidat qui accepte de présider une juridiction d'exception.
Messieurs, j'irai droit au but. Il nous faut 6 condamnations à mort pour après-demain.
Monsieur le garde, la sérénité de la justice.
Messieurs, ce sont les ordres du gouvernement. Rappelez-vous le mot de Chénelon après la Commune. Quand le mal a tous les courages, le bien doit avoir toutes les audaces. Peut-être le contraire.
En effet, monsieur le ministre.
Enfin, monsieur le premier président, il faut constituer ce tribunal. Qui sera le président? Il nous faut un homme sûr.
Ce n'est pas facile. Nous sommes en plein mois d'août. Roland est en vacances. Daïs aussi.
Pas Daïs.
Vous avez raison. Dourne.
Ah non, pas Dourne. Il est beaucoup trop tatillon.
Cornet, peut-être. Oui, monsieur le garde vaisseau, le président Cornet.
Est-il énergique?
Oui, oui.
Il a l'habitude des affaires politiques.
Les races sont allées chercher le président Cornet, voulez-vous?
Monsieur Cornet, monsieur le ministre vous attend.
Bonjour, monsieur Cornet. Vous connaissez sans doute monsieur le procureur général.
Bonjour, Cornet.
Monsieur le premier président. Monsieur le procureur de l'État. Monsieur Cornet, vous avez l'habitude des affaires politiques. Vous êtes donc tout désigné pour présider la section spéciale que nous venons de créer.
Puis-je voir la loi portant création de la section spéciale?
Apportez-moi le journal officiel.
Qu'on poursuive les auteurs d'attentats, d'accord. Qu'on soit sévère, d'accord. Mais condamner à mort sans énonciation des motifs et par une loi rétroactive des hommes qui n'ont rien à y voir, c'est abominable.
Cornet,
je me considère comme outragé qu'on ait pu penser à moi pour une telle besogne.
Ah, un juge qui réagit. Il y en a eu beaucoup pendant le régime de Vichy.
Écoutez, c'est difficile de faire une comptabilité, mais il y a des études tout à fait récentes qui montrent que la magistrature ne s'est pas totalement compromise durant cette période extrêmement douloureuse.
Mais il y a un livre chez Gallimard, peu avant le vôtre, Alain Banco, qui dit
que
les magistrats sont très rares à exprimer leurs réserves jusqu'à la rupture. Ils se replient le plus souvent dans l'impuissance, dans la justification par la routine, etc.
Les magistrats sont des fonctionnaires et comme la plupart des fonctionnaires, ils se sont ralliés à ce régime. Après, je le rappelle que le 10 juillet 40, la Chambre a conféré les pleins pouvoirs au maréchal Pétain.
Mais ce qui est curieux, c'est que beaucoup se sont ralliés aussi au régime des vainqueurs en 1944. Alors, il y a le cas fameux du procureur Mornay, qui, me semble-t-il, avait prêté serment au maréchal Pétain, qui se retrouve dans une position à charge pendant le procès du maréchal Pétain.
Je n'approuve pas ce
mais je ne te demande pas d'approuver. Mais ce que je voulais vous faire dire en évoquant la question de Vichy, c'est qu'elle a eu beaucoup d'importance dans la transformation que vous évoquez beaucoup plus volontiers, beaucoup plus longuement, qui est celle introduite par la Constitution de 1946, la 4e République. Il va y avoir, à partir de ce moment-là, en tant que formation permanente, un Conseil supérieur de la magistrature, dont vous approuvez la création.
Oui, l'apparition d'un conseil, la création d'un conseil de la magistrature en 1946 sous la 4e République, bien entendu, vient en réaction à l'expérience de Vichy. Il s'agit de trouver un statut d'indépendance, de fournir des garanties de stabilité à la profession de magistrat, de lui permettre aux magistrats de progresser dans leur carrière sans influence du pouvoir. Seulement ce CSM, ce Conseil supérieur de la magistrature, on ne va pas lui donner de budget propre. On ne va pas lui fournir les textes d'application qui vont lui permettre de fonctionner véritablement, malgré les interventions du président Auriol, qui est un ancien avocat. Bref, ce conseil fut un échec.
Et puis, le gaullisme va lui rogner encore les ailes à ce Conseil supérieur de la magistrature. On ne va pas parler beaucoup des juridictions d'exception du général de Gaulle. J'ai compris que vous n'aimiez pas ce sujet des juridictions d'exception. D'ailleurs, les gaullistes, ils ont beau vouloir rétablir leur impérium sur la magistrature, ce sont eux qui créent l'école de la magistrature. Hein, Jacques Debray, Jacques Chaban-Delmas.
Oui, absolument. Ils créent. Et il y a ce double aspect, la crainte de la magistrature et en même temps le souci de former enfin les jeunes magistrats.
1968, ça c'est une césure extrêmement importante, pas pour les raisons qu'on imagine, mais parce que va se créer le syndicat de la magistrature et que naît une nouvelle génération. Juge type de cette nouvelle génération, le héros, le juge Fayard du film d'Yves Boisset qui date des années 70.
Entrez, Fayard. Vous devez savoir pourquoi je vous ai demandé de passer me voir.
Non, monsieur le procureur.
Vous savez que les cadres de l'usine Camus s'apprêtent à manifester pour réclamer la libération de leur directeur. Alors, où en êtes-vous de cette affaire?
Encore quelques auditions pour demain. Les cadres de l'usine, justement.
Et l'arrestation de monsieur Camus vous paraît indispensable?
Au moins le temps d'entendre les cadres, oui. Je vais éviter qu'ils se laissent dicter leur déclaration par leur patron.
Il s'agit d'un chef d'entreprise, pas d'un parrain de la mafia. Vous avez arrêté un directeur de société, c'est-à-dire un homme important pour la vie économique de la région. Par ailleurs, rien dans son passé ne justifie que vous lui appliquiez des mesures exceptionnelles. C'est un honnête homme.
Exceptionnel? Je vous demande pardon, monsieur le procureur, mais...
Écoutez, Fayard, ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Si j'ai l'air d'empiéter sur vos prérogatives, c'est que j'ai des responsabilités, moi aussi. Le garde des Sceaux a trouvé cette arrestation surprenante. Le Conseil national du patronat français est intervenu. Le député Chalabert a fait une démarche. Bon, bien entendu, c'est votre affaire, et vous êtes seul juge, mais j'espère que vous avez un dossier bien fourni.
Oh, très bien fourni, monsieur le procureur. C'est le quatrième accident mortel en 3 ans dans l'usine Camus. Et par ailleurs, tous les rapports de l'inspection du travail démontrent que depuis plusieurs années...
Bon, écoutez, s'il vous plaît, épargnez-moi cette énumération. Ce que je trouve inopportun, c'est la détention préventive.
Je ne fais qu'appliquer la loi. Il y a tous les ans en France 35 000 personnes en détention préventive et personne ne s'en émeut, surtout quand il s'agit d'un nord-africain qu'on relâchera 6 mois plus tard, hein, faute de preuves, avec un non-lieu.
Eh bien, non-lieu ou pas, vous ne garderez pas M. Camus en prison pendant 6 mois. Je vous en réponds.
Alors, je ne dis pas que vous rendez hommage dans vos travaux, Jacques Rénen, au syndicat de la magistrature, mais enfin, vous dites l'importance qu'il a eue. Et au total, maintenant, 2-3 questions d'actualité. Elle est, selon vous, à 75% indépendante, la justice. Oui, je suis désolé, il y a les 25% restants.
Oui, je crois que si on, à la question « la magistrature française est-elle indépendante ?», il faut dire oui, en grande partie, je dis 75%, parce que le corps judiciaire en France est divisé en magistrats du siège, 75%, ce sont les juges, et en magistrats du parquet, qui sont des magistrats qui ne jugent pas, ils ne font que déclencher les poursuites, poursuivre ou ne pas poursuivre, ouvrir des informations judiciaires. Ils sont très présents dans la procédure et à l'audience, mais ils ne délibèrent pas, ils ne jugent pas. Donc on appelle ça la magistrature debout, on appelle ça le ministère public, on appelle ça le parquet. Et ces 25%-là sont, depuis les textes napoléoniens, et encore dans l'ordonnance de 58 qui définit le statut de la magistrature française, ils sont définis comme des agents de l'exécutif auprès des tribunaux. Et donc, très légalement, constitutionnellement, ils sont... comme on le disait au XIXe siècle, des sentinelles du gouvernement dans les tribunaux. Donc, cela ne veut pas dire qu'au quotidien, ils ne sont pas indépendants, bien entendu. Dans l'immense majorité des affaires, ils œuvrent de manière tout à fait indépendante. Mais dans les matières sensibles, financières, politico-financières, évidemment, on sait très bien que le ministère de la Justice, les gouvernements successifs ne peuvent pas se désintéresser des activités de poursuite du parquet.
Alors, faut-il maintenir ce lien? C'est une des questions que vous posez. Vous donnez là un élément de réponse. Et, alors, vous osez dire que les magistrats sont devenus si puissants, une puissance politique qui ressemble à certains égards aux oligarchies parlementaires de l'Ancien Régime, avec les droits de remontrance. Vous osez dire ça au pauvre juge là, qui cherche une imprimante et une photocopieuse dans le couloir de son bureau. Et cette oligarchie se défendrait au point de refuser de réfléchir à la question de l'élection. Vous l'évoquez au début de l'émission et que vous voulez ressusciter.
Le problème est le suivant, semble-t-il, aujourd'hui. Et je ne suis pas, bien entendu, le seul à le soulever. De grands avocats l'ont déjà soulevé, bien avant moi. Le problème est le suivant. L'État de droit a pour cheville ouvrière la magistrature. L'État de droit doit fonctionner, ne peut fonctionner qu'avec une magistrature indépendante. Les magistrats, la justice, aujourd'hui, c'est elle qui est gardienne de nos valeurs. C'est elle qui est gardienne de nos droits et de nos libertés. C'est donc un pouvoir, un véritable pouvoir politique. Le troisième pouvoir est devenu le premier des pouvoirs. Par conséquent, faut-il en démocratie que ce troisième pouvoir devenu le premier des pouvoirs ne soit plus en aucun lien avec le peuple qui est souverain?
Vaste question. Vous dites que les avocats soutiennent pour certains le principe de l'élection. On ne voit pas beaucoup de magistrats qui, eux, le soutiennent.
Ah non, pour les magistrats, c'est totalement saugrenu.
L'état de justice en 2 volumes par Jacques Rénen chez Gallimard. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, la préparation, Limka Negulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard et à la technique, Lucas Vaillant.